You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce dimanche avec le sommet du G7 à Biarritz où le président français défend les enjeux de ce sommet. En Australie, les travaillistes s'interrogent sur la manière dont le gouvernement fédéral traite les demandeurs d'asile arrivant dans les aéroports australiens. Les feux en Amazonie, les plus grandes entreprises du Brésil s'inquiètent et appellent Jair Bolsonaro, le président du pays, de ne pas mettre l'économie en danger. Le sommet du G7 à Biarritz ce week-end, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé pour présenter ses objectifs pour ce G7. On l'écoute.
Je veux vraiment les appeler aussi au calme, à la concorde. Nous avons des désaccords, parfois il y a des caricatures, mais je pense que les grands défis qui sont les nôtres, le climat, la biodiversité, la transformation technologique, les inquiétudes dans notre société, la lutte contre les inégalités, cette insécurité qui est partout dans le monde, nous ne les résoudrons qu'en agissant ensemble, qu'en étant davantage réconciliés. Donc je les appelle vraiment au calme et en leur promettant que j'essaierai d'apporter aussi une part de leur vérité autour de cette table.
Et sur le climat, Lucie Dufour du réseau Action Climat France a réagi.
Emmanuel Macron a mentionné la question du climat dans son intervention, seulement il n'a mentionné que des coalitions dans les transports maritimes, dans la mode, qui seraient portées par des entreprises. Or, aujourd'hui nous sommes au G7, qui regroupe les 7 pays parmi les plus riches et parmi les plus polluants de la planète. Et nous, en tant qu'ONG, ce qu'on attend, ce sont des engagements de pays, des engagements qui rendent les pays redevables et qui permettent de réguler l'économie mondiale justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, nous n'avons aucune garantie que ce sommet arrive à des résultats ambitieux sur cette question-là. Donc nous sommes vraiment sur un questionnement de la volonté politique d'Emmanuel Macron de réunir les États autour de cette question. Aujourd'hui, les pays du G7, ils représentent 20% des émissions de CO2 dans le monde. C'est énorme, donc nous avons besoin qu'ils s'engagent d'abord à relever leur ambition climatique. Donc tout simplement qu'ils adoptent des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux, et ce, avant 2020, parce que les scientifiques nous disent que c'est le seul moyen de limiter le réchauffement à 1,5 degré.
Tous doutent qu'il y aura des mesures concrètes de ce G7, un autre énième sommet diplomatique pour certains. Écoutez le chercheur Bertrand Madi, professeur émérite de relations internationales à Sciences Po Paris.
Cette institution avait été créée en 1975 pour réguler les économies occidentales. Donc le sous-ensemble que cette institution reflétait faisait sens à l'époque. Aujourd'hui, la planète est considérablement élargie. L'efficacité du G7 est plus que jamais remise en question. C'est un club, j'allais dire un peu méchamment, de nostalgiques. C'est-à-dire ceux qui régentaient le monde il y a quelque temps, il y a même assez longtemps, puisque le monde dont nous sortons était bipolaire et l'URSS en était un des acteurs. Disons, c'est le reflet de ce qu'était le monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc c'est une affaire de nostalgie, mais une nostalgie aggravée par le fait que très longtemps, les vieilles puissances gardaient plus ou moins le contrôle des cordons du monde. Aujourd'hui, l'agenda du monde, la conflictualité, les besoins économiques et sociaux, ils sont plus au sud qu'au nord.
L'Australie a condamné les lancements de missiles de la Corée du Nord et a demandé à d'autres pays d'exercer des pressions sur le régime de Pyongyang. La ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, a exhorté la Corée du Nord à mettre fin à, je cite, « l'action provocatrice » car le tir de missiles viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le même temps, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis entretenaient de bonnes relations avec la Corée du Nord.
I think that we have a very good relationship. We'll see what happens. That could always change, but we'll see what happens. Kim Jong-un has been, you know, pretty straight with me, I think. And we're going to see what's going on. We're going to see what's happening. He likes testing missiles, but we never restricted short-range missiles. We'll see what happens.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'inquiète du commerce mondial et mettra en garde le président américain au sommet du G7 contre l'escalade de la guerre commerciale avec la Chine.
There are all sorts of people who will take any excuse at all to interfere with free trade and to frustrate trade deals, and I don't want to see that.
La police de Hong Kong a tenté de disperser des manifestants, mais il semblerait que certains de ces manifestants aient déchiré des lampadaires et mis en place des barrages routiers. Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les manifestants posaient un grave problème pour la sécurité du public. Abla Jouanidi, RFI.
Tout est parti d'une marche autorisée par les autorités à Kwantung, district populaire. Au moins un millier de personnes avancent vers le nord. C'est le cas aussi des frontliners, ces jeunes qui vont en première ligne. Ils montent des barricades avec des tiges de bambou et des barrières métalliques. En un peu plus d'une heure, alors que le gros du cortège se disperse, les jeunes en casque, lunettes et masques à gaz avancent leurs barricades. Ils visent la police avec des bouteilles et des pierres. Avertissement des forces anti-émeutes. Panneaux bleus, rouges, puis noirs, c'est l'assaut. Devant les nombreux tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, certains manifestants s'enfuient dans un centre commercial voisin. Pour chasser, ils répliquent avec deux cocktails Molotov, Larry, frontliner.
Ils sont venus dans le centre commercial pour essayer d'arrêter des manifestants. Beaucoup sont partis. La plupart des policiers ne savent pas se contrôler.
Plus tard, un autre front s'ouvre contre un commissariat non loin de là et dans deux autres quartiers. Bilan, plusieurs blessés, dont un aurait reçu une balle en caoutchouc dans l'œil.
En Australie, la sénatrice du Parti travailliste, Christina Keneally, a reproché à la coalition d'avoir perdu le contrôle des frontières du pays et d'avoir laissé arriver des réfugiés non authentiques. Une table ronde se tiendra lundi demain pour examiner le nombre de demandeurs d'asile arrivant en Australie par avion plutôt que par bateau. Christina Keneally a déclaré sur Sky News que des groupes d'agriculteurs viendront assister aux négociations car la pénurie de main-d'œuvre entraîne à leur exploitation.
They are coming largely from Malaysia and China. They are being sent here by criminal syndicates and illegal labor hire companies. They come on legal visas. They are made often to apply for asylum, knowing that they'll be put on a 2 to 3 year bridging visa.
La communauté cambodgienne en Australie a organisé un service commémoratif en l'honneur de l'ancien Premier ministre Bob Hawke, 100 jours après son décès. La cérémonie se déroule conformément au rituel traditionnel cambodgien et reconnaît le rôle essentiel que le gouvernement de Bob Hawke a joué dans la réinstallation des réfugiés cambodgiens durant les années 80. Le président de la société bouddhiste cambodgienne, Sol Nien, a déclaré que Bob Hawke avait joué un rôle important en ramenant le Cambodge à un régime démocratique.
During his government, he helped to have a peace accord in Paris in 1993, which is also bring Cambodian back to democracy at that time.
À l'international, à nouveau avec la polémique sur les feux dans la forêt amazonienne, les plus grandes entreprises du Brésil s'inquiètent et appellent Jair Bolsonaro, le président du pays, de ne pas mettre l'économie en danger. Précision de Claire Farge.
Les plus grandes entreprises du Brésil appellent Jair Bolsonaro à préserver la forêt d'Amazonie dans un communiqué. Les filiales brésiliennes de Coca-Cola, Nestlé, Anglo-American, Siemens, Michelin, mais aussi les géants brésiliens de la bière Ambev, du pétrole Petrobras ou des mines Vale, une compagnie qui a pourtant causé une catastrophe environnementale il y a peu au Brésil, se disent préoccupés par les conséquences de la politique environnementale de Jair Bolsonaro sur l'activité du pays. Ces multinationales pèsent 45% du PIB brésilien et elles ont tout intérêt à une ouverture réciproque de l'Europe et du Brésil à leurs produits. Ouverture menacée par le veto de l'Irlande et désormais par l'avertissement de la France. Le lobby agricole brésilien, lui, ne s'est pas exprimé. Il a soutenu l'élection de Jair Bolsonaro, mais il serait aussi très pénalisé, souligne l'économiste Gabriel Jiménez Roche, si l'Europe n'ouvrait pas plus largement son marché au soja, au bœuf et à l'éthanol brésilien. Sachant que les États-Unis, auxquels le président brésilien semble préférer s'allier, sont concurrents du Brésil sur tous ses produits.
La montée de l'extrême droite crée des inquiétudes en Allemagne à une semaine des élections régionales dans l'est du pays avec une poussée de l'extrême droite. Précision, Pascal Thibault, RFI.
Le tri des ordures, oui, pas celui des humains, ou encore le racisme n'est pas une alternative. Ils étaient au moins 35 000, d'après les organisateurs, à manifester dans la capitale saxonne samedi après-midi. Plus de 400 organisations et personnes avaient appelé à ce rassemblement baptisé Unteilbar, indivisible. Les églises protestantes et chrétiennes avaient également mobilisé. Des responsables politiques des partis de gauche étaient présents, dont le vice-chancelier Olaf Scholz. Les chrétiens démocrates étaient absents, eux, critiquant la participation à la manifestation de mouvements d'extrême gauche. Les groupuscules néo-nazis ont défrayé la chronique dans cette région depuis la réunification. C'est à Dresde que le mouvement anti-migrant Pegida avait été lancé. Le parti alternatif pour l'Allemagne est crédité dans les sondages d'environ 25% des voix à une semaine d'élections régionales très attendues. La mobilisation de ce samedi voulait montrer que la Saxe n'est pas une tache brune sur la carte, comme l'a formulé la ministre de l'intégration de cette région. Cette social-démocrate a reçu récemment une menace de mort.
C'est la fin des vacances en France avec un week-end d'embouteillage. Écoutez ces vacanciers sur une autoroute de la région parisienne. Ils sont sur Europe 1.
C'est les derniers moments de vacances. La route un peu bouchée peu après Bordeaux, plus de 2 heures de retard. Malgré les embouteillages, c'est pas grave, il y a encore la tête en vacances. Ah, le resto, la mer, le farniente, se reposer. J'arriverai quand je verrai le travail au boulot. Tant que je suis pas là, je suis encore en vacances.
On est 5, donc on est bien chargé. La glacière chargée avec des huîtres, hein, parce qu'évidemment là-bas c'est les huîtres, donc on compte avec les huîtres. Bon, on a de tout, on a la petite planche qui vient du bassin d'Arcachon avec des petits décors, les melons de Charente, parce que le melon c'est voilà, c'est on va remonter, on va manger le melon, ça va nous faire penser à nos vacances. On a la tenue de vacances, on est encore en vacances, voilà. Jusqu'au bout, on en profite.
Un mot de sport, cricket avec l'Angleterre qui a marqué 156 runs au deuxième tour de batte pour la perte de 3 wickets et ne manque que 179 runs pour gagner la victoire contre l'Australie. Et puis le footy, l'AFL, Jeremy Cameron de Greater Western Sydney a remporté la Coleman Medal pour le meilleur joueur de l'année. C'était son 150e match de footy australien et il a marqué 9 goals hier contre la Gold Coast Sun. Deuil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 20 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 13, Hobart 13 également, Canberra 16, Sydney 21, Brisbane 27, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, le sommet du G7 à Biarritz où le président français défend les enjeux de ce sommet. En Australie, les travaillistes s'interrogent sur la manière dont le gouvernement fédéral traite les demandeurs d'asile arrivant dans les aéroports australiens. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.